France Inter, le 7-9, intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000, Ségolène Royal, qui a conseil des ministres, elle vient de nous le rappeler à l'antenne, vous répond pendant un petit quart d'heure environ. Franck nous appelle de Bretagne avec un sujet qui suscite beaucoup de questions et d'appels ce matin. Bonjour Franck.
Bonjour Madame Royal.
Bonjour.
Cohen. Madame Royal, je vous félicite de vous opposer au bout rouge en Méditerranée.
Merci.
Mais pourquoi ne vous opposez-vous pas à l'extraction de sable en baie de Lannion en Bretagne?
Ah, c'est une très bonne...
Oui. Il s'agit d'un scandale écologique, ce n'est à peu près contesté par personne. Mais c'est aussi enfin un scandale économique, car cela met en danger les emplois du secteur de la pêche et du secteur du tourisme. Et enfin, c'est un scandale démocratique, car l'ensemble des élus locaux se sont prononcés contre cette extraction de sable, et pourtant, les décrets ont été signés par M. Macron. Il y a maintenant urgence, car l'extraction a commencé cette semaine.
Ah oui, il y a deux nuits après une décision du tribunal administratif. Ségolène Royal.
D'abord, il y a eu un recours, il y a un appel contre la décision du tribunal administratif qui va donc partir au Conseil d'État. Je vais appuyer ce recours des associations qui vont être reçues par mes équipes, parce que comme vous le savez, là aussi, je n'étais pas favorable à cette décision donc qui a été prise par Monsieur Macron, qui est le ministre responsable de ce secteur. Et je crois en effet que c'est une grave décision qui est écologiquement pas responsable. Alors il y a des justifications peut-être là aussi économiques, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut là aussi construire une industrie qui ne prélève pas ou qui n'épuise pas les ressources naturelles, qui ne déséquilibre pas la biodiversité. Il y a un certain nombre, contrairement peut-être monsieur à ce que vous avez dit, un certain nombre d'élus locaux qui ont quand même demandé, qui ont plaidé cette extraction. Donc moi, je vais soutenir ce recours et on verra ce que le Conseil d'État décidera. Je vais donner bien évidemment aux associations de défense tous les arguments scientifiques qui leur permettront d'étayer leur appel.
Vous allez aider les opposants, mais vous n'avez pas le pouvoir de stopper les prélèvements.
Non, je n'ai pas le pouvoir de stopper, mais j'ai le pouvoir de donner des arguments devant la justice, comme je l'ai fait à Nonant-le-Pin, où l'on pensait que l'affaire était définitivement acquise. Ça n'a pas été le cas, parce que nous avons réussi. J'ai appuyé les associations. Nous avons réussi à empêcher des dépôts de déchets dangereux dans un site magnifique, les plus beaux haras nationaux de France.
Annie, depuis le Var. Bonjour Annie.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Voilà, je suis dans le Var. Je vous appelle concernant des éoliennes.
Oui.
Je voudrais savoir ce que vous pensez du fait d'installer des éoliennes à 500 mètres, de 200 à 240 mètres de haut, à 500 mètres d'une habitation. Et si vous envisageriez vous-même d'habiter à proximité comme ça, de ce genre de monstruosité.
Alors,
je vous dis tout de suite, je ne suis pas contre l'énergie renouvelable.
C'est une gêne pour vous visuelle ou sonore, Annie?
Ben, disons que c'est en fait ça ne me concerne pas directement, c'est mon fils.
Oui.
Je ne sais pas si vous imaginez. Alors déjà la gêne sonore que ça peut procurer. Mon fils a des chevaux, donc ça peut générer de l' ombre sur les et du l'effet stroboscopique là. Oui. Excusez-moi, j'arrive pas à exprimer le mot, le fait d'avoir, au niveau visuel.
Bien sûr. Ségolène Royal.
Est-ce que l'installation est déjà faite ou c'est un projet ?
Elle est en projet.
Alors, madame, il y a une enquête publique qui va être faite. Donc, ce qui m'étonne, c'est 500 mètres, parce que normalement, les distances doivent être beaucoup plus importantes que cela. Ça dépend si c'est un habitat isolé ou pas.
On me dit que ça a été changé, que c'est passé de 1500 à 500, c'est ça ce qu'on me dit
En principe, c'est 1000, mais ça dépend après de la nature de l'habitat. Effectivement, s'il y a un habitat isolé, si on mettait 500 mètres sur l'ensemble du territoire national, y compris en prenant en considération les habitats isolés ou les exploitations agricoles, on ne pourrait plus du tout construire d'éoliennes. Maintenant, justement, pour éviter les nuisances, nuisances, il y a l'enquête publique qui est en cours. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de participer à cette enquête publique et de faire valoir ce que vous venez de dire, qui me paraît en effet tout à fait recevable.
Un coup d'œil sur les réseaux sociaux à présent, Hélène Roussel.
Oui, une deuxième autoroute en construisant la 45 parallèle à la première. Est-ce que c'est vraiment COP21 compatible? Je voudrais savoir nos passards 45 qui connaît bien le dossier. Comme
alors, quelle autoroute,
La 45.
La 45, c'est où?
Bonne question.
Bon, non,
est-ce que vous voyez de quoi
non, ce que vous posez là, c'est la problématique des transports routiers, des équipements routiers, par rapport en effet à l'utilisation des énergies fossiles. Maintenant, il faut, là aussi, c'est une question de juste équilibre. Il faut à la fois du développement économique, donc il faut bien les liaisons, d'une part, et d'autre part, plus la circulation est fluide, moins il y a de pollution, parce que c'est aussi dans le surplace et dans les embouteillages qu'il y a beaucoup de pollution. Maintenant, c'est vrai que le paradoxe, c'est que plus on construit des routes et des autoroutes, plus il y a de transports routiers et plus il y a de véhicules. Donc, le défi, c'est quoi le combat? C'est premièrement des véhicules moins polluants. Et l'industrie automobile est en train d'accélérer là aussi sa mutation, sa transition après le scandale Volkswagen. Mon souhait, c'est que bien évidemment dans le délai de temps le plus court possible, on passe notamment en ville par le transport électrique, 100% transport électrique. Ça, c'est l'objectif des villes durables. D'une part, il y a, je rappelle, le bonus de 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique qui a été créé par mon ministère justement pour faciliter ce transport. Et puis, il y a surtout la réduction du transport par camion avec des camions beaucoup moins polluants et avec le développement du fret ferroviaire. Donc ça, ce sont des combats du transport propre qui sont difficiles. Et la nouvelle génération, d'ailleurs je voudrais évoquer ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'innovations dans le secteur dont j'ai la charge, ce sont les transports par câble. Et bientôt sera inauguré, donc zéro pollution, zéro emprise au sol, fluidité totale. Et le premier transport par câble français sera inauguré prochainement à Brest.
Ah oui.
Et ça fait partie des programmes d'investissement d'avenir et notamment de l'incubateur dont vous parliez tout à l'heure. Il faut inventer justement les produits et les usages du futur. C'est pour ça que je crée tout à l'heure l'incubateur avec les start-up dans la Green Tech verte, puisque 49 jeunes entreprises vont être installées tout à l'heure sur l'ensemble des secteurs de la transition énergétique, écologique, biodiversité, gestion des déchets, maîtrise de l'énergie, détection des pollutions, etc.
Qu'est-ce que vous attendez, des idées nouvelles ou des initiatives économiques, des nouveaux marchés?
Oui, des nouveaux marchés, des nouveaux produits, des nouveaux usages. Je vais donner trois exemples. Celui des économies d'énergie, vous savez que les compteurs individuels vont devoir être installés dans tous les habitats collectifs pour qu'il n'y ait plus de factures collectives mais des factures individuelles. Donc on voit des start-up qui inventent justement des mécanismes avec sur votre portable, vous pouvez ouvrir à distance votre énergie, vous pouvez calculer les consommations pièce par pièce en fonction de votre confort, etc. Et puis vous pouvez surtout individualiser vos frais de chauffage et donc diminuer considérablement la consommation. Deuxième exemple, des mécanismes qui peuvent détecter dans les fruits et légumes le seuil de pesticides, le degré de pesticides. Troisième exemple, des applications pour prévenir les risques. Vous savez, lors des récentes inondations, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de drames terribles. Et on en aura de plus en plus avec le dérèglement climatique. Et donc, il y a des inventions pour échanger l'information en cas d'incendie, en cas d'inondation, en cas de phénomène climatique extrême, pour échanger très rapidement, pour diffuser l'information, pour diffuser les gestes qui sauvent, etc. Et puis tout ce qui concerne le financement participatif, l'économie collaborative, les échanges de produits et de services. Donc, on rentre dans cette nouvelle économie de l'échange de produits nouveaux, de technologies, avec l'accès surtout à toutes les données. J'ouvre toutes les données du ministère. Et mon ministère est celui qui possède le plus de données en matière de consommation énergétique, de déplacement, de biodiversité, etc. Toutes ces données maintenant sont mises à disposition des créateurs d'entreprises, dont la première série, donc 49 entreprises que j'accueille tout à l'heure dans ce laboratoire finalement que j'ai créé à Marne-la-Vallée. Et il y en aura d'autres dans le territoire national. Le prochain, j'espère, aura lieu en banlieue, en Seine-Saint-Denis, auprès des jeunes plus défavorisés, avec des systèmes de parrainage entre ces jeunes ingénieurs des grandes écoles du ministère et d'autres jeunes qui viennent des IUT ou des lycées professionnels.
Ce sera donc tout à l'heure à Champs-sur-Marne, à l'École nationale des ponts et chaussées,
voilà.
Avec Axelle Lemaire, la secrétaire d'État. Thomas Legrand, je crois, une question politique pour vous.
Une question un peu plus politique. Si jamais François Hollande décidait de ne pas se présenter, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous le préparez peut-être dans votre tête,
une candidature à la primaire des socialistes. On ne parle pas beaucoup d'écologie en ce moment chez ceux qui sont déjà candidats à la primaire.
Mais vous savez, moi je n'évoque, je vais vous décevoir, je n'évoque jamais l'échéance présidentielle. D'abord parce que c'est très loin.
Oh,
je comprends que ça fasse débat parce que c'est l'élection parmi les
élections. Mais déjà cette réponse est intéressante parce que vous auriez pu me dire non, bien sûr que non. C'est pas non.
Non, parce que déjà répondre ça, c'est déjà rentrer dans cette moulinette inlassable de...
Après, si loin. Non, et bien le PS organise une primaire en janvier.
Voilà. Vous avez raison. Donc, c'est l'affaire des partis politiques. Et comme vous l'avez vu, ma responsabilité aujourd'hui, c'est la COP21, c'est le climat. Donc, je dois mobiliser les pays au-delà des clivages politiques, au-delà des sensibilités politiques. Si je rentre en tant que présidente de la COP aujourd'hui dans des campagnes électorales ou dans l'affaire des partis politiques, je ne remplis pas mon rôle, je ne suis pas pleinement dans ma mission. Donc, c'est l'affaire aujourd'hui des partis politiques.
J'entends que c'est pas non, en tout cas. Moi, je coche les cases, voilà.
Je n'aborde pas ce sujet.
Bon, et vous avez entendu l'appel que vous a lancé Cécile Duflot pour vous appeler à soutenir.
Oui,
la candidature,
si je peux me permettre une petite boutade sur ce sujet, il faudrait qu'elle s'adresse d'abord aux députés écologistes de Gardanne, parce que figurez-vous, c'est quand même sur place un député écologiste qui soutient le rejet des boues rouges en Méditerranée. Voilà, donc qu'elle s'adresse à lui.
Enfin,
voilà.
Il soutient, attendez, vous faites un raccourci, il soutient la poursuite de l'activité de l'usine Alteo, il ne soutient pas le rejet des boues rouges.
L'un ne va pas sans l'autre, exactement. Donc il faut être aussi cohérent quand on se prétend écologiste, alors à ce moment-là. Là, il faut avoir le courage d'imaginer le futur.
Oui.
Voilà. Enfin, donc, ils se débrouillent entre eux. Mais
il est écologiste et puis aussi, il y a 450 salariés qui dépendent de cette activité, 200 sous-traitants, donc on peut comprendre qu'il y a des intérêts économiques aussi.
Mais c'est ma
préoccupation
première et je pense que non seulement ces emplois peuvent être sauvés sur des nouvelles industries, à condition justement qu'on s'y mette, mais même qu'on peut créer davantage d'emplois sans détruire l'environnement.
Est-ce qu'on peut vous interroger aussi sur le plan politique, sur la vie gouvernementale et sur le départ d'Emmanuel Macron, dont il a été question à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien à 8h20. Emmanuel Macron, il a déserté ou il a trahi, pour reprendre les expressions qui ont été entendues ces derniers jours.
Vous savez, moi, je me garde toujours de tenir des propos désobligeants à l'égard des uns ou des autres. J'ai dit, je le répète, qu'il n'y a pas plus grand honneur pour un responsable politique que d'appartenir au gouvernement de son pays et d'avoir l'extraordinaire opportunité d'agir et de changer les choses, de me projeter justement, comme je viens de le montrer, sur plusieurs domaines, le pays dans le futur. Et par conséquent, c'est le seul jugement que je peux émettre, mais certainement pas des choses désagréables sur le plan personnel.